Je vous invite à la prière. Seigneur, nos prières se répètent. Nous avons des fois, j'ai l'impression des fois que je me répète, mais ce n'est pas grave, parce que je peux te remercier à chaque instant, ce n'est pas suffisant. Merci pour ces paroles, ces partages que nous avons eus ce matin, qui nous a parlé, comblé. Que ces paroles ne disparaissent pas quand nous sortons d'église, mais que ces paroles que nous avons entendues ce matin nous accompagnent durant toute cette semaine, dans l'objectif de nous transformer, nous préparer pour la vie éternelle et surtout que ton royaume avance. Je remets devant toi ce message, ce modeste message avec toutes les erreurs qu'il va contenir, afin que tu puisses le sanctifier, afin que mes frères et sœurs ne puissent garder que ce qui vient de toi. Mais si je le demande, c'est que tu as déjà répondu, Seigneur, parce que tu veilles sur chacun de nous. Et je te remercie par avance de tout ce que tu vas faire pour que mes frères et sœurs puissent garder que ce qui vient de toi. En ton saint nom. Amen.
Amen.
Alors nous sommes toujours dans la lettre aux Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, cette ville de Turquie, cosmopolite on va dire, mais qu'il y avait tout un mélange dans cette ville qui correspond en fait à notre monde, à notre ville, on peut dire. Il y avait les croyants, les incroyants, il y avait les athées, il y avait les philosophes, les scientifiques, il y avait ceux qui cherchaient à gagner leur vie, les commerçants, il y avait de tout. Mais il y avait surtout aussi une persécution. Les enfants de Dieu étaient persécutés par des religieux d'abord. Les juifs qui persécutaient ces juifs qui sont devenus chrétiens, on va dire. Mais aussi, il y avait la persécution du monde. Ça, c'est relaté dans tous les évangiles, dans le Nouveau Testament. Mais c'est relaté à travers la vie de l'apôtre Paul, qui nous raconte un peu son parcours dans les Actes des Apôtres, dans ses lettres, aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Galates, aux Colossiens. On voit que cette difficulté, si on appelle ça une difficulté, c'est plus qu'une difficulté, c'est une souffrance qu'il vivait l'apôtre Paul. Et à cette église d'Éphèse, que nous sommes en train d'étudier justement les réunions de mardi soir, et je crois que mardi, on a effleuré un peu les salutations. C'est tellement c'est riche, cette lettre-là. Et quand on la lit, on a l'impression qu'on est dans un autre monde, on ne comprend pas. Et quand on arrive dans le piège de dire du comprendre, on est perdu. J'entends toujours Roland nous dire, ou me dire, est-ce que tu ne peux pas faciliter les choses pour que je puisse comprendre? Parce que c'est, des fois, c'est, quand je ne comprends pas, ça ne va plus. Je ne comprends pas. Je suis quelqu'un de terre à terre. Ce qui est une qualité, hein, ce n'est pas un défaut. Mais en même temps, ne tombons pas dans le piège. Dans le piège où tout ce qui me dépasse, je ne veux pas l'entendre. Dans ce cas-là, que dirons-nous des premiers chrétiens à qui il écrit l'apôtre Paul? Vous avez lu la lettre aux Éphésiens? On leur dit quoi alors? On lui dit quoi l'apôtre Paul? Mais ça ne va pas, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas simplifié? Pourquoi il n'a pas écrit simplement? Alors que ces chrétiens-là, de ce temps-là, ils étaient dans une situation pire que nous. Genre, je suis sûr que la plupart ne savaient ni lire ni écrire. C'était des simples paysans, je ne sais pas. Et pourtant, il leur a écrit cette lettre aux Éphésiens. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, faites lire cette lettre à l'autre église aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Demandons à l'apôtre Paul de simplifier son langage, au point, des fois, le risque peut-être de déformer. N'est-ce pas une erreur, déjà, dans les traductions de la Bible? On a tellement traduit jusqu'en est arrivé Bible français courant. Mais je ne vous cache pas, quand je lis la Bible français courant, j'ai l'impression que je m'éloigne du message. Vous voyez? Attention, parce que le filtre du comprendre peut être un piège. C'est ça que je veux dire par là. Si je dois attendre de comprendre pour adhérer et vivre ma foi, il n'y a rien de pire que ce piège-là. Même quand je ne comprends pas, je sais que le Seigneur parle. Parce que le Seigneur peut parler par ma vie, par le témoignage, pas spécialement par le comprendre. Alors que disons-nous alors? Que dirons-nous des gens, je dirais, que des handicapés mentaux? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont condamnés, eux? Quand ils viennent à l'église, un handicapé mental qui, par exemple, il était présent parmi nous ce matin, qu'est-ce qu'on va dire alors? Il est condamné. Il ne comprend pas ce qu'on dit. Il a l'impression. Mais pourtant, quand on lit la parole de Dieu, Dieu lui parle. Vous voyez? c'est terrible ce filtre du comprendre. Je dois comprendre avant de d'adhérer. Non. Même si je ne comprends pas, j'adhère parce que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui me lit la parole de Dieu, eh bien, je sais que Dieu m'a parlé. Et je me rappelle toujours, je me répète encore une fois, cet homme de Dieu que j'ai connu, qui m'a marqué, que Dieu a permis, m'a marqué dans mon parcours, Serge Tarasenko, il m'a dit, ça m'a marqué, oui, il y a des paroles qui restent. Mais il m'a dit, même quand je lui dis, mais je ne comprends pas, j'étais au début de mon chemin chrétien, c'est dans les débuts des années 90. Je lui dis, Serge, je ne comprends pas ce que tu dis là, je ne comprends pas quand je lis. Mais il m'a répondu, attention, moi quand je lis ma Bible, eh bien, quand je la ferme, je remercie Dieu de m'avoir parlé, même si je ne comprends pas. Et si Dieu veut m'amener à comprendre, mais ça c'est une grâce, c'est la cerise sur le gâteau. Et bien là, je le remercie. Et souvent, quand on lit la parole de Dieu, des fois, des mois, des années après, on dit, ah, mais c'est ça qu'il voulait dire. Oui, c'est pour ça que je fais très attention quand on me demande, oui, il faut simplifier. Oui, on est dans la mode de la vulgarisation, oui. Mais si je ramène ça à ma façon d'expliquer pour que mon frère comprenne, où est le rôle de l'esprit? Où est-ce qu'il est le rôle de l'esprit? Dieu peut convaincre, l'esprit peut convaincre, chacun à sa mesure. Mais ne créons pas de règles. Et souvent les règles, ça empêche l'esprit d'agir, y compris nos méthodes du matin. Regardez comme ce matin je suis perdu. Depuis la dernière fois qu'on a discuté, j'essaie de maîtriser le temps. Mais pourtant, aujourd'hui, si vous avez remarqué, le jour où j'ai essayé de maîtriser le temps, c'est le jour où je le maîtrise moins. Parce qu'on a dépassé largement avec peu de personnes ici. Laissons le Seigneur guider toutes choses, mes frères et sœurs, je vous assure. Parce que, y compris moi, je serai à l'aise. Parce que je ne suis pas à l'aise. Vous voyez, je suis en train de couper, on ne chante pas. Je suis en train de dire, je regarde le temps. Même Tobie dit, ah, je ne sais pas, je vais... Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? Laissant l'esprit agir librement. Et s'il ne faut pas qu'il n'y ait pas de message, mais il n'y aura pas de message. Moi, je veux prendre ce risque-là que de maîtriser le temps. Je tiens vraiment à vous le dire et je viens encore de l'expérimenter encore ce matin parce que je vous le dis clairement, je ne suis pas à l'aise. Je préfère laisser ma place à quelqu'un d'autre qui préside et qui peut mieux faire les choses. Parce que je laisse, parce que l'esprit peut parler à travers les uns et les autres. Regardez ce matin, le Seigneur a parlé. Comment je peux empêcher ce que vous avez dit? Même Inès a parlé. Imaginez que si j'avais le temps, elle n'aurait pas parlé. Tout ça pour vous dire un message que j'ai écrit à l'avance. Non, si mon message doit s'effacer, il s'effacera. Voilà. Donc restons là-dessus, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre que cette liberté, y compris nos réunions du mardi soir, de vendredi. Regardons, on vient sur Éphésiens, on veut étudier la lettre Éphésiens, mais on est complètement perturbé par la présence d'une étudiante clélien qui, sur sa recherche, elle vient avec cette question. On aurait dû lui dire, on aurait pu lui dire, attends, hop, arrête, tu vas nous suivre. Et on aurait pu faire ça, puisqu'on a un programme. Tout le monde vient pour ça. Tout le monde avec son stylo, son crayon et son cahier. Mais non. Eh bien, le Seigneur a permis que cette fille-là vienne nous perturber. Et nous étions heureux parce que le Seigneur a parlé. C'est comme ça, la liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Restons dans cette liberté-là, quitte que ça nous coûte. Voilà. Eh bien, je reviens à tout ça pour notre... aux Éphésiens, et là c'est un passage qui est un peu obscur, on va dire, qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas, donc on le laisse de côté. Et c'est un passage dans Éphésiens, mais je ne vais pas lire entièrement de ce que j'ai lu ce matin, mais c'est, je vais lire juste quelques versets. Éphésiens 1, d'abord je vais lire versets 9 à 11. Vous voyez, vous allez voir, c'est. Mais quand on le détaille, on le décortique, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Éphésiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Nous faisons connaître, et on parle de Dieu, Paul l'apôtre Paul qui parle, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, le mystère de la volonté de Dieu, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. À ne rien comprendre. Et un autre passage, dans même Éphésiens, mais cette fois-ci, chapitre 1, verset 22. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et il l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée. Une autre traduction nous dit, sur ce verset 22 du chapitre 1, et il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et il a mis tout sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église ou à l'Église. Vous voyez, un passage dans Éphésiens où l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'Église d'Éphèse, où il est en train de leur transmettre une révélation que lui a reçue. C'est ça, hein? L'apôtre Paul a reçu une révélation de Dieu, du Seigneur, et cette révélation qu'il est en train de transmettre aux chrétiens d'Éphèse. Il est en train de leur dire beaucoup de choses. C'est marrant, il n'est pas en train de leur dire « Le Seigneur prend soin de vous, il a envie que vous soyez guéris, il a envie que vous soyez en bonne santé, il a envie que tout va bien chez vous, il a envie que vous ayez la paix. » Non, il leur donne, il leur transmet quelque chose de plus grand. Quand je dis ça, pourquoi ? Souvent, on réduit souvent notre vie chrétienne à ce que Dieu fait pour moi, mon bien-être, être content, heureux, joyeux, tout va bien dans ma famille, les enfants, tout va bien, l'éducation, pas de problème de santé. Oui, on réduit tout à nous. Mais c'est une partie du message. Mais là, Paul, il est en train de l'Église, il leur dit beaucoup de choses plus grandes. Il commence par leur dire, mais vous vous rendez compte, il leur dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il est en train de nous dire qu'il y avait un secret divin dans le ciel qui nous échappe. Ce secret-là, et bien maintenant, il est dévoilé aux chrétiens. C'est plus nos petits bobos, hein. Pas du tout. C'est un secret. Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire, de toute éternité, le Père avait un plan et il l'a mis concrètement en application dans l'Église chez les chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes réunis ce matin et Dieu nous révèle un plan que le monde ne peut pas comprendre, que le diable ne peut comprendre. Je vais même plus loin. Même les croyants de l'Ancien Testament, y compris Moïse, ne l'avaient pas. Et nous, nous sommes privilégiés. Nous avons ce plan extraordinaire. C'est-à-dire que cette décision éternelle nous est révélée selon le bon plaisir de Dieu. Alors ne cherchons pas pourquoi, c'est juste une réponse qui est dans les lettres. Souvent on dit, mais pourquoi ? Eh bien la réponse est selon le plaisir de sa volonté. Je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Je ne dis pas pourquoi pour le plaisir de son volonté. Mais qui suis-je pour demander ça ? La parole de Dieu me dit, selon mon plaisir, ma volonté, je te révèle. Je m'arrête là. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Point. Nous n'allons pas dans les discussions philosophiques. On est devant un mur. Mais c'est quoi cette volonté, ce dessein éternel de toute éternité ? Mais il le dit encore une fois. C'est que l'objectif, c'est quoi ? C'est réunir toutes choses en son Fils Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. De toute éternité, dans sa pensée, on va dire, si j'utilise mes mots réduits tels que je ne peux pas utiliser d'autres mots, c'était comme si Dieu, dans sa pensée, il voyait déjà toutes choses, y compris nous, unis, réunis à Christ, la fin des temps. Vous voyez ? Ça, c'est la vision divine. Et pour y arriver, il nous associe en se révélant dans notre cœur. Est-ce qu'on se rend compte de cette responsabilité, de cette grâce à laquelle nous ne sommes pas appelés à changer, être bien ? Mais pas du tout. C'est une grâce, je dirais, mais minime. Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Il nous dit que l'objectif, et d'ailleurs il le rappelle dans Colossiens, si je voulais un autre passage, si je prends par exemple la lettre aux Colossiens, d'apôtre Paul Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, hein, Colossiens 1, 15 à 17, je vous lis. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Oui, ce Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, écoutez bien, en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Rien ne trouve sens sans cette communion, cette union en Christ qui se termine à la fin par cette union finale avec une nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle création. Dans Colossiens chapitre 1 verset 19 et 20, je lis encore, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Christ. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà la croix au centre. Donc, si nous contentons d'être chrétiens, et je pense que c'est pour cette raison que la foi chrétienne, surtout en Occident, elle est tellement froide, je dirais même tiède, elle est tiède, c'est que nous ne réalisons pas cet objectif grandiose, glorieux, auquel Dieu nous appelle. C'est que quand on est chrétien, on rentre dans une vision où nous devenons en mouvement, en devenir vers quelque chose de très grand, c'est que toute chose sera unie à Christ et nous régnerons avec lui. Mais si je réduis seulement ma vie chrétienne à ma vie de tous les jours, ici-bas, mais qu'est-ce que c'est malheureux? Qu'est-ce que c'est pauvre? Et je comprends en raison maintenant pourquoi ces chrétiens du premier, il y a 2000 ans, acceptaient joyeusement le martyr. Maintenant, je comprends. Si c'était des chrétiens qui ne pensaient qu'à leur bien-être, Seigneur, viens à mon aide, sors-moi de la misère, guéris-moi, sois que ma famille soit joyeuse, je ne crois pas que ces chrétiens, à la première difficulté, y compris la persécution, ils accepteraient de mourir pour le Seigneur. Par contre, s'ils ont reçu la vision par révélation au fond d'eux, comme quoi tout ce qu'ils voient, c'est rien du tout par rapport à ce qui les attend, je comprends qu'ils rentrent dans l'arène en chantant, en sachant que le lion devant eux, il va les manger. Vous voyez? Je pense que c'est une question de vision et de révélation. Et ce passage que je viens de vous lire, il est question d'abord de la volonté et le destin éternel de Dieu qui est annoncé depuis la Genèse, se concrétise par le Seigneur et manifesté par l'Esprit. L'Église qui n'a pas cette vision-là, il y a un problème. Donc il faut qu'on se mette, encore une fois, toujours en prière pour demander au Seigneur, révèle-nous ta volonté. Et c'est pour ça qu'on répète souvent, ne cherchons que le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, c'est toi que je veux connaître. C'est ça qu'on doit chercher. Et plus on cherche à connaître le Seigneur, plus comme le Père il dit qu'il donne le Fils, il donne tout avec, il va révéler à l'Église sa vision. Et une Église sans cette vision est une Église morte. Elle vit le jour, mais aux moindres difficultés, elle disparaît. Par contre, si elle a cette vision-là, elle réalise qu'elle est partie intégrante du plan de Dieu. Parce que là, il est question, Dieu nous fait on devient participant, on devient héritier. C'est-à-dire, on devient en mouvement, on est en mouvement dans ce plan, et alors du coup, on se rend compte que l'Église a une importance grandiose dans la vision de Dieu. La volonté de Dieu est le dessein éternel, mais Christ au centre. Tout est créé de Christ, par Christ et pour Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ, c'est de la foutaise. C'est une perte de temps. C'est rien. Et la croix au centre, on a parlé assez de brisement, tout ça. Mais le Seigneur n'est plus là, on va dire. Quand il était sur terre, il expliquait les choses-là, mais il est monté. Il est à la droite du Père. Il est dans l'éternité. Mais j'ai l'impression, encore, excusez-moi pour la faiblesse de mes mots, mais je ne peux pas faire autrement, je suis un humain, j'utilise des mots. J'ai l'impression que le Seigneur est en attente pour que les choses s'accomplissent. Je vais même plus loin. Le Seigneur a pris le risque d'être incomplet en attendant que l'Église le rejoigne pour être complet. Vous voyez, je vous ai dit, excusez-moi, les limites de mes mots. Que le Seigneur me pardonne. Il a pris ce risque-là. Et ce mouvement-là, il l'a confié à quelqu'un. Eh oui. Il est au ciel, et tout est en mouvement, ce plan, oui, ce grandiose, qui va emmener vers l'union avec le Père, avec le Christ, à travers cette rencontre entre l'Église et le Père. Et il y a une nouvelle création, nouvelle terre, nouveaux cieux, et ce sera pour l'éternité. Mais pour arriver, il a mis quelque chose en mouvement ici, dans ce monde-là. Et vous savez, c'est quoi ce mouvement? Eh bien, c'est l'Église. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que cette réalité pour qu'elle avance, l'Église est appelée à intégrer ce mouvement-là. En fait, l'Église n'est rien d'autre que Christ lui-même sur terre, mais spirituellement parlant. L'Église, qui est son corps, est l'instrument pour la pleine expression de ce dessein, c'est-à-dire de Christ. Est-ce que nous réalisons cela? En fait, j'ai l'impression qu'on ne le réalise pas. Quand je regarde le monde chrétien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne le réalise pas. Si je me lève le matin si je me lève le matin et je n'ai pas d'autres soucis que mon Seigneur, c'est que je ne réalise pas. La Bible nous dit que l'Église est l'héritière, c'est-à-dire que Christ est dans le ciel, mais il a confié cette mission à l'Église par l'Esprit. Et c'est l'Église qui est Christ sur terre. Attention, je ne parle pas des dénominations. Je parle de l'Église communauté chrétienne. Et c'est l'Église qui doit être éclairée sur la vision de Dieu. Et l'Église devient témoin dans ce monde. Elle devient même un instrument pour combattre le diable, lui rappeler sa défaite. Parce que la Bible nous dit, tout se passe dans les lieux célestes. Et l'Église doit mener, c'est-à-dire vous et moi. Mais si je suis dans cette démarche-là, tout ça, ça doit être accompagné par des fruits. C'est un gage, comme quoi je suis l'Église. Alors, posons la même question. L'Église, aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans ce combat spirituel? Est-ce qu'elle représente Christ sur terre? Est-ce qu'elle est en mouvement vers l'éternité? C'est la question que je me pose. Oui, pourtant, quand il a écrit à l'Église d'Éphèse, il leur a dit, vous êtes une communauté d'élus. Il est en train de leur dire, vous êtes en train de combattre avec moi. Et bien, quand je vous vois, je vois le Seigneur dans le monde. Eh bien, c'est ce que je me pose comme question, parce qu'en lisant Éphèse, et je vous ai dit, plus je lisais Éphèse, plus mardi soir, il y a deux choses qui vont nous remettre en question, et c'est, je pense que ça doit nous emmener vers la repentance. Et l'Église, c'est l'objectif de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est Christ. L'Église, c'est une communauté spirituelle, c'est pas un bâtiment. L'Église, ce ne sont pas des affiliations, ce ne sont pas des organisations. L'Église, ce ne sont pas un ensemble de pratiques ou de croyances. L'Église, d'abord, est l'assemblée locale, c'est-à-dire comme nous, par exemple, pas une assemblée locale. C'est tout ce que se vit au niveau spirituel sur terre. Nous, par exemple, en tant que communauté, entre nous, eh bien, ce qui est spirituel, elle doit se voir à travers notre vie, notre communauté, notre communion fraternelle. Vous allez me dire, mais c'est trop, c'est beaucoup tout ça. C'est pas ce que nous comprenons de l'Église. Eh bien justement, oui. C'est que nous a tellement rabâché, nous a tellement dit les choses tellement terrestres, que l'Église, elle reste comme ça, et on l'accepte. Mais quand on nous présente un message spirituel, par exemple spirituel qui vient pas de moi, mais je parle d'Éphèse, d'Éphésiens, on a l'impression que c'est platonique, c'est de la théorie. Mais non. La vie chrétienne normale, c'est justement tout sauf ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit sur l'Église, c'est rien du tout par rapport à ce que l'apôtre Paul et la Bible nous disent sur l'Église. L'Église est spirituelle. L'Église, c'est Christ sur terre. L'Église, c'est la vie dans l'Esprit. L'Église, c'est la communion dans la victoire. L'Église, c'est le témoignage vivant. L'Église, c'est ce qui m'a amené à dire, je préfère mourir que de renier le Seigneur. C'est ça, l'Église. L'Église, c'est une communauté de chrétiens. L'un dépend de l'autre. L'Église, c'est une communauté de chrétiens où l'un est prêt à donner sa vie pour l'autre. Je le répète. L'Église, c'est une communauté chrétienne spirituelle où l'un de nous est prêt à donner sa vie pour son frère et pour sa sœur. Oui, ça dépasse. Nous, c'est à peine si on demande des nouvelles de nos frères et sœurs. Ah si, on passe du temps à prier pour eux. Oui, ça coûte, oui, c'est des paroles. Mais l'Église, c'est ça. Dans le premier temps, ils donnaient presque leur vie. Quand on leur donnait de dénoncer son frère et sa sœur, tu et moi, je ne vous donnerai pas le nom. Vous voyez, c'est du concret. L'Église locale ne doit pas être une simple congrégation, une dénomination, une association culturelle. On n'est pas, parce qu'on appartient à l'action biblique. Oui, mais c'est rien. Mais ça, c'est. Je me demande si le Seigneur déjà entend ce qu'on dit là. Il comprend même pas. En fait, même pas comprendre. Il prend même pas en compte ce que je viens de dire. L'Église pour lui, c'est des croyants en Christ. Point. Mais nous, on part dans les pentecôtistes, les darbistes, bref. La question qui a une importance prééminente dans l'Église, comme dans l'Église universelle, hein, catholique si vous voulez, universelle, c'est celle de la souveraineté absolue de Christ. Est-ce que Christ est souverain ou pas? Je ne cherche pas ce que action biblique, minonite, d'arbitre, non. est-ce que Christ est souverain ou pas? On s'en fiche des dénominations. C'est la question. Il est question de fruits. L'arbre, est-ce qu'il porte des fruits? Le principe du corps doit être sauvegardé. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Y compris dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'église d'Antioche ou de l'église de Jérusalem, à aucun moment, et ça je fais référence aussi à l'église catholique, à aucun moment, il est dit qu'il y a un responsable, un pasteur, un ancien, un représentant. À aucun moment. Il est toujours question de pluralité. À Antioche, à Jérusalem. Les anciens, il n'est pas dit un ancien. À aucun moment vous trouverez dans la Bible, au Nouveau Testament, un ancien. Il est toujours pluralité des anciens. Ça signifie que l'Église est amenée et par représentant à travailler d'une manière corporative en minimisant les contraintes humaines, les influences de la chair, en travaillant d'une manière collégiale. Je sais bien dans cette Église, on parle d'un ancien, c'est votre humble serviteur devant vous, ancien. Mais je comprends maintenant. Vous voyez, je comprends. Le Seigneur est bon. Il est très bon. Plus j'avance, plus je comprends. Je comprends pourquoi je suis tellement interpellé au fond de moi que je ne veux pas être le seul ancien. Quitte d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu et chercher à proposer des frères pour être anciens. Vous voyez, le Seigneur est bon. Et je m'éclaire petit à petit. C'est-à-dire, je suis conscient que je ne dois pas être le seul ancien dans l'Église. Je le sais. Mais le Seigneur le permet pour le moment, mais on travaille de manière collégiale. Au point que dans ma tête, je cherche tout ce qu'on veut pour proposer une solution, pour proposer quelqu'un pour qu'il soit ancien avec moi. Oui. Et le Seigneur répond. C'est pas vous qui décidez. C'est moi. Et le moment venu, c'est lui qui décide. Pas nous. Et tout de suite, il montre les choses. Parce que dans la parole de Dieu, à aucun moment, il s'agit d'un ancien. Vous lisez, relisez votre Nouveau Testament. Même à Antioche, même à Jérusalem, à chaque fois, même l'apôtre, quand tu l'écris aux églises, aux anciens, mais il faut dire qu'on est une petite communauté aussi. Oui. Il est question aux anciens. Et c'est pour ça que je suis ravi et heureux que dans cette église, je puisse travailler avec au moins à trois déjà, avec Jean-Louis et Didier. Ça nous donne une certaine humilité et en même temps, on est à l'écoute des uns des autres. Il nous faut remarquer que les apôtres, Paul aussi, quand il partait pour évangéliser, ça aussi, c'est ma lecture des Actes des Apôtres. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, les apôtres, quand il allait évangéliser, jamais, au grand jamais, c'est écrit, il partait pour installer des églises. Jamais. Il partait pour annoncer le Seigneur et l'Évangile. Et l'installation des églises, c'est le Seigneur qui s'en occupe. C'est lui qui installe les envoyés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On envoie des missionnaires, tout ça, pour installer des églises qui doivent affilier à notre domination. Et tout ça, on le couvre de spiritualité. Non, quand on annonce l'évangile, mais on s'en fiche, soit notre dénomination. Du moment que l'évangile est dans les cœurs ouverts. Tout ça pour vous dire que l'église, la définition de l'église, elle est un peu transformé dans notre époque. Il faut qu'on soit conscient, je suis le premier à être conscient. L'Église telle qu'on la donne comme définition aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Église qui est écrite dans les Évangiles. Et je vous donne je termine par ça. Austin Sparks, donc cet homme de Dieu qui a vécu au 19e, 20e siècle, voilà ce qu'il écrit. Et ce n'est pas d'aujourd'hui pour dire. Hein. C'est à cause de notre dévotion et de notre jalousie pour une chose, une mission, une dénomination, une tradition, une communauté, un mouvement, etc., que jaillissent les rivalités et les mauvais sentiments. Tout ce que l'on entend dire au sujet des brebis volées. Hein? Brebis volées. Vous n'avez jamais entendu ça? Deux dénominations n'essayent de ne pas travailler ensemble parce que l'un a peur que les membres de l'Assemblée partent ailleurs. Et je ne veux pas que vous piquez mes etc. Parce que quand on regarde le frère, on ne le regarde pas seulement en tant que frère spirituellement. On le regarde avec son portefeuille. Moins d'argent dans l'église. Ou le nombre. Combien de pasteurs qui viennent en Europe vers mission, quantité? Oui, on ne se rend pas compte de toutes ces choses-là. Tout ce que l'on entend dire au sujet des brebis volées et d'enfants de Dieu divisés vient en grande partie d'un souci pour non pas la croissance spirituelle, mais pour quelque chose ici-bas, sur cette terre. Combien ces choses deviendraient impossibles si chacun prenait cette attitude à l'égard des choses. Peu importe ce qui survit ou cesse d'exister, pourvu qu'il y ait spirituellement un accroissement de Christ. Cela entraîne la nécessité pour tout le peuple de Seigneur, et particulièrement pour ceux qui ont des positions officielles et des places d'influence, d'être uniquement et absolument consacrés à l'accroissement de Christ. Christ n'est pas divisé. C'est donc Christ qui est la base de l'unité, et non les choses mentionnées plus haut. L'Église, ce n'est pas la quantité. Mais est-ce que Christ est là? Rappelons-nous que l'Église n'est ni grande ni petite, que le succès de son travail n'est pas mesuré selon le nombre de personnes, mais selon la mesure positive de Christ. Voilà cet homme ce qu'il a dit il y a presque 100 ans sur l'Église. Et bien, l'Église, alors quand vous lisez l'Épître aux Éphésiens, comme elle m'a interpellé, et bien cette Église, l'apôtre Paul, il l'a écrit à les chrétiens d'Éphèse, qui étaient des chrétiens élus, des chrétiens qui sont dans la volonté de Dieu, leur dit, vous avez reçu la vision, c'est que tout concourt, le plus important, c'est tout concourt à la fin au Christ. Vous avez réalisé que vous êtes l'Église et vous êtes en communion avec lui et vous avez la responsabilité d'avancer comme associé de Dieu dans ce plan. Eh bien, votre Église, elle doit porter des fruits. Le reste, ça n'a aucune importance. Voilà le message du début de la lettre de Paul aux Éphésiens. Que Dieu nous aide et nous donne à tous un cœur prêt à suivre l'agneau où qu'il aille et à parvenir à sa plénitude. Que Dieu nous aide. Amen.